L'histoire, et c'est bien sûr avec Patrice Gélinet.
Bonjour, aujourd'hui, une histoire des pauvres en France, deuxième partie.
France Inter. Toute la journée, nous avons reçu sur nos écrans informatiques, ici à France Inter, des dépêches, souvent brèves. Un SDF retrouvé mort dans une voiture du 13e arrondissement à Paris. Un autre, un Sénégalais, décédé dans le sous-sol d'un immeuble de Montreuil. Un troisième, victime lui aussi du froid, à Marseille.
D'histoire. On se souvient qu'en 2002, Lionel Jospin avait promis, s'il était élu, qu'il n'y aurait plus un seul SDF en France. Un objectif ambitieux, pour ne pas dire utopique, mais qui avait le mérite de souligner le signe le plus visible de ce qu'on appelle aujourd'hui dans les pays riches la nouvelle pauvreté. On n'y meurt plus de faim, comme au XIXe siècle, mais on y vit encore dans l'exclusion, la précarité et dans la rue, malgré les promesses électorales ou l'action de celui qui, depuis 1954, incarne mieux que personne la lutte contre la pauvreté, l'abbé Pierre.
Voilà le printemps qui arrive. Il faut qu'avant le prochain hiver, il n'y ait plus de mal logés, il n'y ait plus de sans logis. Il faut que partout sur la terre de France, nous fassions fleurir des maisons, des enfants, et des fleurs. Toi, Français, qui que tu sois, tu ne peux pas t'endormir en paix si tu n'as pas, au jour de ta paye, mis quelque chose de côté pour secourir ton frère qui n'a pas de logis. Alors, nous nous retrouverons véritablement dans un peuple uni, dans un peuple où il y aura de l'amitié, parce qu'il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de souffrances injustes, pour le travailleur.
Pierre Pirard, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était l'abbé Pierre quelques semaines après le célèbre appel qu'il avait lancé en février 54. L'abbé Pierre qui depuis 50 ans est sans doute le premier nom qui vient à l'esprit quand on parle de lutte contre la pauvreté. Une pauvreté qui n'est plus la même aujourd'hui qu'au 19e siècle. Au 19e siècle, les principaux critères, nous l'avons dit hier, c'était la faim, c'était la maladie et des maladies qui ont aujourd'hui pratiquement disparu. Aujourd'hui, vous le rappelez dans un livre, ce qu'on appelle en France la nouvelle pauvreté, c'est d'abord, l'absence de logement et la précarité.
Tout à fait. En France, il n'y a pas eu de politique de logement, complète depuis très longtemps. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, il y avait dans les communes ce qu'on appelle des commissions du logement insalubre. Mais il y a eu quelques lois, comme la loi Ribot, la loi Loucheur, ou la création des premiers HBM, qui ont essayé, je dirais, de gommer un peu, ou de, on peut dire, de pallier au manque de logements véritables, surtout dans les banlieues, même dans les villages. J'ai connu des villages bretons vers 1946, qui vraiment ressemblaient à des villages du Moyen-Âge. Et en ce qui concerne la période contemporaine, il faut savoir qu'en 1914, la guerre éclatant, le gouvernement a déclaré un moratoire sur le logement, c'est-à-dire que on ne bâtit plus, on s'arrête, si on peut dire. Mmh. Et ce moratoire, d'ailleurs, ne sera jamais rapporté pendant 20 ans, 30 ans.
Vous avez évoqué les banlieues, Pierre Pirard. Alors, c'est pas seulement quand elles se développent à partir du début du 20e siècle, dans la très proche... En fait, aux limites de
petite,
Paris.
La petite couronne.
La petite couronne. C'est pas tellement pour y donner des logements aux ouvriers, mais c'est, enfin aux pauvres, c'est surtout pour les chasser des centres. Exactement. D'ailleurs, c'est l'étymologie du mot banlieue, vous pouvez peut-être le rappeler.
Oui, c'est ça. C'est le lieu du banc. C'est-à-dire, vous vous souvenez, on était banni. Ouais. Le mot banni vient de banc. Et on avait absolument l'impression à Paris que les banlieusards, ce qu'on appelle d'ailleurs le suffixe « art » est assez péjoratif aussi, c'est encore un peu valable maintenant. Mmh. Le Paris, c'est une ville, je dirais, un peu consacrée, une ville, non pas de riches, mais enfin une ville de gens qui sont un peu protégés. Mmh. La banlieue, c'est
le Paris d'Haussmann,
Le Paris d'Haussmann, c'est ça. Même dans les quartiers relativement populaires. La banlieue, c'est le reste. C'est les industries, ce sont les hangars, c'est le chemin de fer, c'est tout ce qu'on veut.
Alors la situation des logements va être absolument désastreuse au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu d'abord les destructions de villes entières parfois disparu, je pense à Brest, pense au Havre, etc., sous les bombardements qu'il faut reconstruire. D'ailleurs, la pénurie de logements est telle que c'est en 47 qu'apparaissent déjà les HLM pour la première fois,
Oui, exactement.
Les habitations à loyer modéré.
Ces logements, je dirais qu'on va appeler HLM, sont des logements qui vont être multipliés à partir surtout des années 50. Je parle de mon petit cas personnel. Lorsque je me suis marié, nous sommes mariés. Mes beaux-parents habitaient Paris. Nous avons logé pendant un an chez mes beaux-parents parce qu'on ne trouvait rien. Mais heureusement, à Châtillon, se commençait à s'élever. C'était des immeubles en copropriété, mais tout de même des choses qui n'existaient pas. C'est-à-dire que là où il y avait des maraîchers, on a vu évidemment quelquefois des tours ou des bars ou tout ce que vous voulez. Mais enfin, par rapport à la pénurie précédente, c'était tout de même un progrès.
Cela dit, bon, il y a quand même une pénurie énorme et qui est d'autant plus choquante aussi, vous le rappelez, Pierre Pierrard, d'abord que c'est une période plutôt faste dans l'histoire de notre économie d'après-guerre. Il y a très peu de chômage. En fait, si on n'a pas de logement, on ne manque pas de travail encore. Hein, au lendemain de la guerre, il y a très très peu de chômage. Et surtout, c'est une période extrêmement... C'est ce qu'on appelle les 30 glorieuses.
Les 30 glorieuses, oui. Or, les 30 glorieuses sont précisément marquées d'une façon un peu paradoxale par la lutte, d'une lutte, j'allais dire, presque violente, surtout de la part de trois prêtres, c'est-à-dire Jean Rodin. Le fondateur du discours catholique, l'abbé Pierre, le fondateur d'Emmaüs, et le père Joseph Rezinski, le fondateur d'ATD Carmonde, leur but essentiel, c'est le logement.
Oui, parce qu'on y reviendra sur ces trois personnages, mais c'est vrai que c'est absolument incroyable de voir les conditions dans lesquelles vivaient les Français, y compris ceux, et c'était la plupart d'entre eux, qui avaient un travail, les conditions dans lesquelles ils vivaient à l'époque, c'était sous les tentes, c'était dans des bidonvilles, dont certains, d'ailleurs, le dernier, je crois, un des derniers est disparu récemment, près dans la région marseillaise, à Cassis, mais c'était vraiment incroyable, c'était quelque chose d'impensable aujourd'hui, ce qu'était le logement au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.
Tout à fait. Dans la banlieue proche, comme celle que l'abbé Pierre et ou le père Joseph ont connue, c'était, comme vous dites, les tentes, c'était la zone, c'était, je dirais, le no man's land, ou à peu près. Rappelez-vous, même après la guerre de 1914, la zone qui entourait Paris, dont par un autre prêtre, le père Lande, le jésuite, on se trouvait véritablement comme dans une autre planète, littéralement.
Et la situation va évidemment s'aggraver encore lorsqu'en 1953 commence un des plus terribles hivers qu'ait connu la France et qui va provoquer en février 54 l'appel de l'abbé Pierre.
Le froid, toujours le froid, encore le froid. Nous en sommes, je crois bien, au cinquième dimanche polaire. Et tenez-vous bien, la météo prévoit encore une aggravation.
Je voudrais bien être logé le plus rapidement possible, parce que si ça continue, je tirerai pas le coup, je tomberai malade.
Vous avez très froid la nuit. Mais comment vous chauffez-vous?
Avec l'alcool à brûler.
Mais dans quoi? Dans une...
Cuvette.
C'est-à-dire on met ça dans une cuvette parce qu'on n'a pas possibilité de mettre de poêle. On peut rien faire, et c'est des toiles de tente.
Mais vous ne risquez pas l'incendie?
C'est-à-dire qu'hier soir, on l'a brûlé, quoi. Alors, on a tout perdu.
Et toi, est-ce que c'est vrai qu'il y avait des rats qui couraient sur toi?
Oui.
Qu'on me donne un bâtiment. Au moins, elle aurait un toit, ce serait beaucoup mieux.
Vous ne voudriez pas confier quelques-uns de vos enfants? Vous ne voulez pas vous en séparer?
C'est-à-dire que j'ai déjà une petite fille, je suis séparée de 9 mois. Oui.
Non, vous voulez les garder tous avec vous?
Oh oui, parce que je suis déjà séparée de celle-ci. Mon grand qui a 20 ans, alors vous savez, je peux pas. Je suis déjà à bout, alors je peux plus.
Petit bonhomme, où t'en vas-tu, courant ainsi sur tes pieds nus? Je cours après le paradis, car c'est Noël à ce qu'on dit. Le Noël de la rue, c'est la neige et le vent. Et le vent de la rue fait pleurer les enfants. La lumière et la joie sont derrière les vitrines. Ni pour toi, ni pour moi, c'est pour notre voisine.
Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière, dans la nuit, où l'on lise ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime.
Et c'était le célèbre appel de l'abbé Pierre le 1er février 54 au micro de Radio Luxembourg, provoquant une extraordinaire manifestation de solidarité, ce qu'on appelait l'insurrection de la bonté et le succès d'une communauté qui existait déjà depuis 54, la communauté d'Emmaüs, Pierre Pirard.
Oui, la communauté d'Emmaüs a été, je dirais, le premier jalon de toute une série de, je dirais, d'inventivité, d'inventions pour essayer de colmater cette plaie qui était le manque de logement.
Et avec un principe, je m'excuse, je vous coupe, mais original, qui était, plutôt que d'attendre des dons, il y en aura énormément, c'était de demander aux pauvres de s'aider eux-mêmes par le travail.
Oui.
C'était par exemple les chiffonniers d'Emmaüs.
Tout à fait. Au début, lorsqu'il était encore député, il a fait travailler les gens, mais ensuite, il les a mis, je dirais, au travail. Il a dit, prenez-vous en main, soyez vous-même, soyez, si on peut dire, les maîtres de votre destin. C'est un petit peu la même chose chez le père Joseph, d'ailleurs.
Alors justement, parce que au fond, la popularité qui n'est pas démentie de l'abbé Pierre depuis déjà 50 ans, 51 ans, même depuis l'appel de 54, elle a un peu occulté d'autres personnages qu'on trouve dans votre livre, Pierre Pierrat. Et à commencer par exemple par un homme dont j'ignorais, je vous avouerai le nom, et qui était Jean Rodin, qui en 46 crée le Secours catholique.
Oui, dont le but premier, c'est la constitution de cités-secours. Mmh. D'abord, le logement. L'abbé Rodin, qui a été aumônier des prisonniers pendant la guerre, est chargé de fonder le Secours catholique, qui est complètement submergé dès le début. C'est-à-dire, dès le début, il a été frappé par le fait qu'il a reçu des milliers de personnes à la rue du Bac, qui étaient complètement perdues, et surtout qui n'avaient pas de logement, ou qui vivaient dans des conditions absolument misérables. Le Secours catholique, d'ailleurs, a comme pendant laïque le Secours populaire, l'ancien Secours rouge. Il y a Coluche, dont nous parlerons.
Oui. Le Secours catholique, par exemple, c'est vrai qu'on l'oublie parfois, c'est quand même le deuxième organisme actuellement collecteur de dons en France, derrière le Téléthon. Autre personnage, vous l'avez cité à plusieurs reprises, c'est le père Wresinski avec son association ATD Carmonde, qui est aussi, alors là vraiment c'est...
Il part de plus bas lui encore, je dirais.
Lui-même est un pauvre.
Un véritable pauvre, et il est nommé là-bas du côté de Noisy-le-Grand, et il se trouve devant des situations qui le font pleurer. Et il a juré non seulement de donner un logement à ces pauvres, mais également juré de leur donner une histoire. Il a été frappé, comme moi-même, par le fait qu'il n'y a pas d'histoire des pauvres, que les pauvres ne racontent pas leur histoire. Et un de ses efforts, c'est de faire raconter leur histoire, pas seulement pour le plaisir de faire raconter leur histoire, mais pour émerger et se mettre, je dirais, sur le même rang que n'importe quel citoyen. Les gens du Carmonde, pour le père Joseph, ce sont des gens comme vous, comme moi. Il n'y a pas de véritable différence.
Oui, ce qu'on appelle le Carmonde, c'est lui, je crois, qui est à l'origine
de la formule.
C'est
ça, oui, tout à fait.
Et alors, ça fait penser aux tiers états du 19e ou du 18e siècle, au 4e état de Marx. Et alors qu'il s'intéresse pas seulement, il essaie d'éradiquer ou de faire reculer la pauvreté, non seulement dans le domaine des logements, mais dans tous les domaines, publie en 87 un rapport important.
Oui, juste avant sa mort, oui.
Et puis alors, avec cette formule très belle qu'on trouve dans votre livre, là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés, s'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Alors la lutte contre la misère ne concerne pas que le problème des logements et n'intéresse pas que des prêtres, vous le disiez, mais aussi un humoriste qui, en parlant lui aussi à la radio, comme l'abbé Pierre, lançait il y a 20 ans une idée qui allait faire son chemin, Coluche sur Europe 1, le 26 septembre 1985.
Mais j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours, s'il y a des gens... qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Nous, on est prêts à aider une entreprise comme ça qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000 ou 3000 couverts par jour gratuitement. Et puis, on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Vous entendez Coluche et les Restos du Cœur qui ne promettaient pas, on vient de l'entendre, le grand soir d'une révolution, mais des restaurants gratuits pour les pauvres. Vous n'en parlez pas de Coluche, Pierre Gérard, dans votre livre.
J'en parle un tout petit peu, mais j'aurais dû en parler davantage, parce qu'au fond, il est le pendant laïque de l'abbé Pierre. Personnellement, je canoniserais l'abbé Pierre, je canoniserais également Coluche, parce que c'est un véritable prophète. Et il ne faut pas oublier que les restaurants du cœur reçoivent un monde, je dirais, trois fois plus important que lors de la fondation il y a 20 ans.
Et cela dans une société qui, comme autrefois, au fond, laisse de plus en plus, d'après les exemples qu'on vient de citer, la lutte contre la pauvreté à des initiatives privées, qu'elles soient religieuses ou laïques, comme si, au fond, l'État ou les partis politiques s'en désintéressaient de la pauvreté.
Oui, ils s'en désintéressent, surtout ils s'en submergent. Mais ils s'en désintéressent en réalité. Il y a des ministères de la Santé, des ministères de ceci, de cela. Mais on constate que ceux qui épongent, pour employer un vilain terme, la pauvreté depuis la Révolution française, ce sont essentiellement des associations privées. Il y a l'assistance publique, bien sûr, des gens qui, assez spontanément, bénévoles ou pas, ont essayé de réduire cette pauvreté et qui revient toujours comme une tête d'hydre, si on peut dire.
Et une pauvreté qui s'est même aggravée, alors que, encore une fois, nous sommes, bon, certes, les Trente Glorieuses sont finies, et après la fameuse crise du pétrole, elle s'est aggravée.
73, oui.
Avec un facteur nouveau de pauvreté qui n'existait pas, justement, au moment où il y avait cette énorme pénurie de logements des années 50 et 60 et 70. C'est le chômage, bien sûr, qui est aussi un facteur, bien entendu.
Oui, il y a un nombre. Je crois qu'il faut remonter au 19e siècle pour trouver un chiffre comme de 2 millions, par exemple, de chômeurs actuellement. Le chômage est une étape dans l'histoire de la pauvreté. Bien entendu, le chômeur est aidé comme on n'était pas aidé au 19e siècle. Il n'empêche que, je crois que c'est la fragmentation du travail qui fait que les gens sont complètement perdus. Vous avez ces fameux emplois à durée déterminée qui sont un peu la terreur, j'allais dire, de nos petits-enfants. Je vois mes enfants ont été placés, ils ont trouvé relativement facilement. Au niveau de mes petits-enfants qui commencent à grandir, il y a une espèce de, non pas de terreur, mais enfin un recul, si vous voulez, devant l'avenir. Parce que vous avez ces petits boulots, vous avez ce chômage qui, ou ces délocalisations qui interviennent alors qu'on ne s'y attend pas. C'est une forme de la pauvreté, j'irais, relativement nouvelle. Parce que le chômage autrefois était relativement résorbé. J'ai chez moi une série de livrets d'ouvriers de Roubaix. L'ouvrier faisait signer par son patron quand il quittait l'usine, mais vous voyez par les dates que presque tout de suite il retrouvait un travail, parce qu'à Roubaix vous aviez des usines partout. Maintenant c'est tout à fait autre chose.
Mais alors il n'y a pas que les chômeurs de façon qui sont secourus modestement et tant que ça dure, il y a aussi ce qui est assez grave, parce que ça concerne des catégories de gens qui jusque-là n'étaient pas trop frappés par la pauvreté, je pense aux petits agriculteurs, aux artisans et commerçants, ce qu'on appelle aussi les working poor, c'est-à-dire ceux qui travaillent mais dont les revenus ne sont pas suffisants.
Exactement.
Il faut rappeler qu'en France, quand même, il y a en 2004, il y avait 4 millions de Français qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté qui était fixé à 559 €, je crois, c'est-à-dire 3 700 francs à peu près. Donc c'est vraiment, ça touche tout le monde maintenant.
Oui.
Plus personne n'est épargné.
Petits retraités, petits commerçants, moi je connais à Roubaix des petits commerçants qui ont mis la clé sur la porte, ou dans les fonctions libérales, des tout petits fonctionnaires qui ne gagnent pas suffisant, ou surtout dans l'agriculture, dans les campagnes. Vous avez des fermiers qui ont une retraite absolument insignifiante, qui vont connaître une forme de pauvreté, incontestablement.
Et alors, chômeurs ou travailleurs qui sont de plus en plus exclus, et cela malgré une mesure inédite en France dont vous parlez, et qui a été prise par le gouvernement Rocard le 1er décembre 1988, France Inter, Thierry Bourgeon, le 12 décembre.
Feu vert pour le RMI, les demandes de revenus minimum d'insertion sont disponibles dès aujourd'hui, notamment dans les différents services d'action sociale. Mathieu Aron s'est rendu dans un centre d'hébergement de l'Armée du Salut. Il y a rencontré Hélène, une jeune femme de 35 ans, sans profession, qui vit avec les 1300 francs mensuels que lui versent les allocations familiales. Deux de ses enfants ont été placés à la DAS et on comprend que pour elle, le RMI, c'est plutôt la bouée de sauvetage.
Dans la situation où je me trouve, ça me permet d'abord de maintenir le minimum pour vivre.
Qui vous en a parlé du RMI ?
Mon assistante sociale.
Et qu'est-ce que vous en espérez ? Est-ce que vous savez combien vous allez pouvoir toucher ?
Eh ben, 2000 francs minimum, et on espère en plus. Pour les femmes qui sont seules avec des enfants ou qui vivent dans des foyers comme ça, c'est important. Pour se trouver au minimum de la société dans laquelle on vit.
Parce qu'autrement, vous n'avez pas l'impression d'appartenir à cette société ?
Tant qu'on ne vous donne pas la solution de trouver du travail comme on veut, n'appartient pas à la société.
Dans votre livre, Pierre Pirard, vous dites à peu près le contraire de ce que disait en 88 la femme que l'on vient d'entendre. Le RMI, dites-vous, est un signe de marginalisation alors qu'il est censé combattre.
Oui. malgré tout, c'est un signe de marginalisation, c'est-à-dire que on revient toujours à la notion de pauvreté. Dès que vous parlez d'un RMiste, vous parlez à un RMiste, vous avez absolument l'impression de parler à un indigent du 19e siècle. Mmh. C'est une espèce si on veut dire, d'étiquette qui est collée au personnage et qui fait qu'il a l'impression d'être enfermé dans une cage, quoi qu'il fasse.
Oui, le RMI, il faut rappeler quand même que son nom, c'est Revenu Minimum d'Insertion, oui, et on s'est rendu compte après coup qu'il insère relativement peu.
Oui. Et alors on a créé il y a 2 ans le RMA qui aide les RMistes à trouver un travail.
Mmh. Alors il place aussi, dites-vous, les pauvres dans une logique d'assistance et non plus d'insertion. Au fond, on a l'impression qu'on revient presque au 19e siècle quand on ne comptait que là-dessus.
Tout à fait. À partir de la Troisième République jusqu'à une période, jusqu'aux Trente Glorieuses, le travail était exalté. C'est en fonction du travail. Le travail, je ne l'ai pas défavorisé actuellement, vous avez des gens qui ont un diplôme important, qui sont au travail, qui sont au chômage. Le travail n'a plus... j'ai connu Roubaix il y a 30 ans ou 40 ans, qui était la ville du textile, la capitale du textile. Je dirais qu'on respirait en fonction du travail, si vous voulez.
Oui, mais encore faudrait-il qu'il existe. Vous citez Roubaix, mais le textile, c'est parce qu'il n'y a plus d'emploi dans le textile que le problème se pose. Et au total, vous le rappelez, il y a 6 millions de personnes qui vivent des minima sociaux. Alors, dans des conditions, évidemment, qui sont moins dramatiques qu'il y a 2 siècles,
moins
quand nous en parlions hier,
pour
moins
visibles.
Hein. Et puis surtout, moins dramatiques que dans des pays dont votre livre ne parle pas, puisque vous parlez de la pauvreté en France, mais qu'il faut mentionner, et où l'on vit véritablement. Le pauvre se trouve dans les conditions où se trouvait le pauvre au Moyen-Âge.
Oui, et encore au XIXe siècle. Je ne cite pas Clémenceau. Vous savez que Clémenceau, je vous rappelle en tout cas, était médecin à Montmartre avant d'être un homme politique. Et dans ses mémoires qu'il a publiées récemment, il dit l'impression physique, je dirais détestable, qu'il avait lorsqu'il voyait les queues se constituer pour les soupes populaires. Napoléon avait mis tout, je dirais, tout son espoir dans ce qu'on appelait les soupes à la rhum forte, c'est-à-dire des soupes constituées de légumes divers qui pouvaient remplacer le pain. Et Clémenceau, en 1910, par là, a vu sortir, au pied du Sacré-Cœur, qui n'était pas encore achevé d'ailleurs, un véritable régiment de pauvres, déguenillés absolument, qu'on voit dans les estampes du temps de la guerre de 30 ans, ou comme vous dites, du Moyen-Âge. Avec, des vêtements délabrés, des gens sales, des gens un peu comme le pauvre de la couverture de mon livre.
Est-ce qu'il n'y a pas justement... Certes, il y a de la pauvreté, vous le rappelez tout au long de ces pages dans votre livre, Pierre Pierrard, mais une espèce d'égoïsme à ne penser qu'à notre propre pauvreté en oubliant qu'il y a infiniment plus pauvre. Je vais parler des pays étrangers. Certes, votre livre, c'est pas l'objet de votre livre, mais c'est vrai que cette pauvreté est effrayante à l'étranger. Là, ce sont des pays entiers. Au fond, on parlait des banlieues tout à l'heure. Les banlieues des pays riches, avec leurs pauvres, c'est évidemment les pays du tiers-monde.
Oui, tout à fait. Entre nos banlieues et puis l'Afrique ou d'autres pays, d'autres zones pauvres à travers le monde, il y a un écart considérable. Nos banlieues ne sont peut-être tristes, c'est possible. Elles ont été mitées lorsqu'elles ont été construites. Mais enfin, elles n'empêchent qu'on y respire. J'ai l'impression très très forte, l'abbé Pierre, que j'ai rencontré une ou deux fois, l'abbé Joseph, surtout que j'ai connu, le père Joseph, me disait l'impression terrible qu'il avait lorsqu'il visitait les pays d'Afrique ou d'Asie, ou d'Amérique du Sud même.
Comme si, au fond, à l'échelle internationale comme nationale, il était impossible de venir à bout de la pauvreté, y compris, nous l'avons dit, dans les pays riches. Au fond, comme si c'était une fatalité. Est-ce que c'est une fatalité, au fond?
Je ne pense pas que ce soit une fatalité. On l'a considéré comme une fatalité, vous savez, même chez les chrétiens, puisque on rappelait toujours le mot de l'évangile qui est un peu ambigu, vous aurez toujours des pauvres parmi vous. Ce qui permettait à un certain nombre de gens de se dire, bon, je suis riche, j'aide les pauvres, il y aura toujours des pauvres, ou tiers, par exemple. Et on considérait ça, en effet, comme une fatalité. Avec tout de même la correction de voir que le pauvre serait récompensé parce qu'il est résigné et que le riche serait récompensé dans le ciel parce qu'il aurait aidé les pauvres. C'était une espèce de fatalité. Ça ne doit pas être une fatalité. L'abbé Joseph me disait, c'est contre cette fatalité que j'ai voué ma vie.
D'autant moins qu'elle dépend de la solidarité. Or, il se trouve qu'en France, on s'en est rendu compte à l'époque de l'abbé Pierre, qu'on s'en est rendu compte avec Coluche, on s'en rend compte récemment avec le tsunami. La générosité est énorme. Comment se fait-il qu'avec une telle disponibilité des Français à pouvoir donner, On est encore tant pauvre en France.
C'est probablement au niveau politique qu'il y a des choses à faire. Je ne sais pas. Je ne suis pas un politologue et je ne suis pas un économiste. Je suis un homme ordinaire. Mais je considère que cet énorme élan de charité privée n'a pas son équivalent au niveau de l'État, si on peut dire au niveau de ceux qui sont véritablement responsables. Je n'accuse personne en disant cela. Mais c'est une constante de l'histoire de France depuis la Révolution française. La volonté de grandes déclarations, mais cette volonté, je dirais, s'écroule devant les faits. Au fond, c'est une fatalité qu'on accepte sans le dire, et on laisse au privé, c'est-à-dire à la charité, comme on disait autrefois, le soin de, je dirais, de remplir les creux.
Merci Pierre Pierrard. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur du livre « Les pauvres et leur histoire », récemment publié aux éditions Bayard, et vous êtes également l'auteur de Un siècle de l'Église de France, édité chez Delcel Brouet. À lire également La précarité de Patrick Saint-Golani, édité au PUF dans la collection Que sais-je, et Manifeste contre la pauvreté de Martin Hirsch, édité chez 10-18. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Céline Bonhomme, Claire Destacan, Claire Tessel et Cédric-Joseph Julien, ainsi qu'à Anne Kobilac pour la réalisation. Fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets. Lundi 28 juin 1914, l'assassinat de François Ferdinand d'Autriche à Sarajevo qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Mardi avec Dominique Baudis, une figure importante de l'histoire de Toulouse, Raymond le Cathare. À partir de mercredi, 3 émissions spéciales à l'approche bien sûr du référendum du 29 mai. Mercredi, une histoire du référendum en France. Et enfin, jeudi et vendredi, 2 émissions sur les grandes étapes de la construction européenne avec 2 historiens, un partisan du oui et un partisan du non. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald.
Amis de la musique.
Music. Music.